Europe 1, il est 9h. Le journal est présenté par Hélène Zélani.
L'opposition les attend au tournant. Baptême du feu pour les ministres de la nouvelle équipe avec les traditionnelles questions au gouvernement ce matin à l'Assemblée, cet après-midi au Sénat. Gilles Legendre, président du groupe En Marche à l'Assemblée, était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il salue un dialogue qui commence sur de bonnes bases avec le nouveau gouvernement et notamment avec Jean Castex.
Nous avons eu une première séance de travail extrêmement confiante. Précisément, parce que le Premier ministre est venu avec un message qui a été droit au cœur et aux oreilles des parlementaires de La République En Marche, je veux travailler avec vous. Ce gouvernement est un gouvernement d'action. C'est ça qui est fondamental. Il est assez fortement renouvelé. Le tiers de ses membres n'était pas dans l'équipe auparavant. Les ministres sont immédiatement opérationnels au travail. Et c'est urgent parce que les Français nous attendent sur beaucoup de terrains. La question du casting, la question des équilibres politiques du gouvernement, les Français s'en contrefichent.
Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, au micro Europe 1 de Pierre de Villeneuve. Et à propos du casting, justement, le Premier ministre Jean Castex, invité de nos confrères de BFM TV, qualifie Éric Dupond-Moretti d'homme formidable. Il assume la nomination de Gérald Darmanin, qui a droit, dit-il, à la présomption d'innocence. Jean Castex a un premier rendez-vous ce soir avec les partenaires sociaux, notamment pour évoquer l'épineux dossier des retraites. Il les réunira ensemble avant le 20 juillet et annonce qu'il veut décaler la réforme de l'assurance chômage. Hier soir, le Premier ministre s'était invité aux négociations du Ségur de la Santé. Il a annoncé plus d'un milliard d'euros supplémentaires pour les salaires des soignants, soit une enveloppe de 7,5 milliards en tout, mais les syndicats se disent déçus de la répartition. Plusieurs ministres occupaient le terrain hier dès la fin du Conseil à l'Élysée. Éric Dupond-Moretti s'est rendu à la prison de Fresnes. Gérald Darmanin à Port-Sainte-Marie dans Lot-et-Garonne pour un hommage à la jeune femme gendarme tué par un chauffard, et Jean-Baptiste Djebbari à Bayonne pour soutenir les chauffeurs de bus très choqués par la violente agression d'un de leurs collègues, toujours entre la vie et la mort. Une marche blanche est d'ailleurs organisée pour lui ce soir. Deux hommes ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. L'économie redémarre mieux que prévu. Selon les prévisions de l'INSEE publiées ce matin, le recul du PIB pour 2020 devrait atteindre 9% alors que le gouvernement tablait sur un effondrement de 11%. Autre chiffre qui ravit cette fois les parents et les lycéens, plus de 91% des candidats au bac l'ont décroché du premier coup, record absolu, presque 14 points de plus que l'an dernier. Les euros de rattrapage qui commencent aujourd'hui vont encore faire grimper ce taux de réussite. C'est sans doute l'un des chefs d'État les plus sceptiques sur le coronavirus. Le président brésilien Bolsonaro annonce qu'il a été testé positif, mais il dit aller parfaitement bien. Les États-Unis à l'OMS, c'est fini. Le président Trump retire officiellement son pays de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il accuse d'avoir mal géré la pandémie. Joe Biden, candidat démocrate à la Maison-Blanche, promet d'annuler cette décision s'il est élu le 3 novembre. Les États-Unis, où 60 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, nouveau record pour un pays qui déplore plus de 131 000 morts. Chez nos voisins européens, l'heure est parfois au reconfinement face au rebond des contaminations, mais ce sont des décisions très localisées. Pierre Herbulot.
Le Portugal s'en sortait jusque-là plutôt bien, plusieurs dizaines de foyers de contamination plus tard et 700 000 Lisboètes sont de nouveau confinés à domicile, privés également de stade. La phase finale de Ligue des Champions s'y jouera à huis clos. Dans l'Espagne voisine, deux régions ont pris des mesures de restriction de circulation, mais sans contraindre les habitants à rester chez eux. La Galice est autour de Lérida en Catalogne, où Cristina redécouvre la crainte du virus.
Déjà, on a peur que les hôpitaux se voient saturés, comme la dernière fois. Et on a peur, bien sûr, d'être touchés nous-mêmes. On s'y attendait pas vraiment, alors pas évident de vivre avec tout ça.
Là-bas, c'est dans un foyer de travailleurs que l'épidémie est repartie, comme dans une petite ville du sud de l'Italie ou dans deux cantons allemands, 600 000 personnes reconfinées. Au Royaume-Uni, face à une recrudescence de cas, la ville de Leicester a dû rester cadenassée quand le reste du pays a repris vie la semaine dernière, raconte Jamie.
C'est une déception pour tout le monde. Ça touche aussi les commerces comme les coiffeurs et les pubs qui espéraient rouvrir. On avait l'impression que les restrictions allaient être levées, mais normalement dans une semaine c'est bon.
L'Europe de l'Est n'est pas davantage épargnée. Après une première phase de déconfinement, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ont dû serrer la vis une seconde fois.
Pierre Herbulot est ce matin dans le Figaro. Le professeur Jérôme Salomon estime qu'il faut se préparer à une deuxième vague qui est possible cet automne ou cet hiver. C'est le directeur général de la santé numéro 2 au ministère. Et puis le président du comité international olympique est en ce moment à Paris. Thomas Barr va notamment rencontrer Emmanuel Macron pour évoquer les conséquences du Covid sur les Jeux de Paris 2024 et sur leur budget.
Merci, c'était Hélène Zélani sur Europe 1.